Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sold Out. Vous commencez maintenant à être habitué à ces épisodes hors série, hein, une semaine sur deux après le Sold Out traditionnel consacré au métier du live. On rentre dans les métiers de manager et je ne le fais pas tout seul, manager d'artiste, bien sûr. Je ne suis pas tout seul puisque moi, je ne connais pas bien ces métiers-là, je ne connais pas bien cet univers-là. Et donc, Daniel Findikian, le boss de l'EMIC, l'école de management des industries créatives, est autour de la table pour m'aider à interroger nos invités. Salut Daniel.
Salut Marc.
Comment ça va?
Ça va bien.
T'es prêt?
Oui.
T'es prêt? Alors, tu nous as fait venir qui aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, on reçoit Alexandra Pilzaio. Bonjour Alexandra.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Salut Alexandra, tu diriges une boîte qui s'appelle Savoir-Faire, hein, c'est ça?
Absolument, une société qui existe depuis 2008 maintenant, donc ça commence à faire un moment.
Ça commence à faire un moment, surtout que tu as fait aussi plein d'autres choses passionnantes avant, donc on va parler de Savoir-Faire beaucoup, beaucoup, de ton parcours et de plein d'autres choses dans cet épisode de Sold Out qui commence maintenant.
Est-ce que tout est prêt?
Oui, monsieur le directeur.
Bon, alors je vais faire commencer.
On parle d'artistes, on parle de développement de carrière, on parle de partenariat, on parle d'appels en pleine nuit ou pas.
Vous faites ce métier pour le plaisir ou pour l'argent?
On parle de conseils, on parle de conseillers, on parle d'accompagnement.
On parle d'humain, non?
De temps à autre, il me faisait signer des papiers auxquels je ne comprenais rien.
Sold Out.
Sold Out.
Le podcast de Delight.
Le podcast de Delight.
Bonjour, je m'appelle Alexandra Pilzaio, donc je dirige la société Savoir-Faire qui est créée depuis 2008 maintenant, qui fait trois métiers que sont le management d'artistes, les éditions et l'activité de label. Le management a été notre premier métier et il le reste au cœur de notre activité et puis j'imagine qu'on rentrera peut-être un peu plus dans les détails ensuite.
Premier artiste managé.
Alors, premier artiste managé dans ma vie, c'était lorsque j'étais adolescente et c'était un groupe de rock de copains qu'on emmenait dans des tremplins en banlieue, dans le 92 à l'époque, qui s'appelait Génération Plutonium.
Et t'as ça dans le sang quand même.
Ouais, l'écologie avec.
Ouais. Et dernier artiste managé.
Alors, c'est le dernier artiste que nous avons signé, la dernière artiste que nous avons signé chez Savoir-Faire, qui d'ailleurs a un profil original, parce que souvent on signe des artistes au tout début de leur carrière et ce n'est pas son cas. C'est une artiste qui s'appelle Lala Ace.
Sold Out saison 5, hors série numéro 5, avec Alexandra Pilzaio, DG et fondatrice de Savoir-Faire, qui manage une grosse trentaine d'artistes, dont notamment The Blaze, Geza Feldstein, Johan Papa Constantino, Mid et Yodelis. Enregistré dans les studios de Delight et dans les bureaux de Delight surtout, à la toute fin de l'année 2023. Salut Alexandra.
Salut.
Alors toi, tu as fait des études en kit en fait, c'est un peu comme les trucs IKEA, tu as fait en deux fois. Tu as un premier diplôme et un second diplôme une dizaine d'années plus tard.
Bah d'abord, on a le droit de prendre le temps et de changer d'avis.
Mais c'est
et
génial.
Et ensuite, on les fait pas du tout de la même façon. Ouais. J'ai vraiment... Alors, je me destinais plutôt à faire de la politique. J'étais passionnée par l'Europe. Voilà, on a des lubies et puis je pense
génial.
Que c'est ma génération et mon époque aussi. Donc j'ai fait des études de sciences économiques et politiques à la Sorbonne. Et donc voilà, et en fait sur la route de mes études, une rencontre et une première proposition de stage refusée une première fois, une deuxième fois, puis une troisième fois, je me suis laissée, j'ai accepté de faire un essai pour 3 mois et j'ai découvert les métiers de la musique dans un label de Canal+, qui s'appelait La Bande Son.
Et ensuite, tu passes chez V2 Musique ?
Absolument, j'enchaîne.
Alors, pourquoi tu voulais travailler sur les artistes ? Pourquoi tu passes de Canal+, où tu gérais les bandes-son des films, à V2 Musique, un label ? Bon, on rappelle quand même V2 Musique, le label de Richard Branson.
Ouais, ce qu'il a créé après avoir vendu Virgin. C'est aussi une histoire de rencontre. Le label... bon, d'abord, j'avais déjà fait un certain nombre d'années chez Canal et donc je commençais à me poser un petit peu des questions sur la suite. Et il s'avère que nous étions un label distribué par Sony, que la personne qui dirigeait ce département à l'époque était Pascal Bittard, fondateur d'Idol, aujourd'hui.
Juste Idol, vous pouvez rappeler pour les gens qui
c'est
nous écoutent.
C'est un des principaux distributeurs numérique de musique en France.
Indépendant,
ouais.
Un acteur majeur de la musique aujourd'hui.
Exactement. Et en fait, il est parti de la distribution de chez Sony pour devenir le nouveau directeur marketing de V2. Et il m'a proposé de le suivre dans cette aventure.
Donc de 2001 à 2008, tu es chez V2, tu bosses en label.
Absolument. En tant que chef de projet, quelques années, spécialisé sur la musique électronique. Et ensuite, en tant que responsable du développement international, ce qui était une grosse activité chez V2, de coordonner les différents pays, parce qu'on était plein de petits bureaux partout dans le monde.
T'es déjà au contact des artistes à ce moment-là ?
Ah oui. Oui, oui, oui. Puis à l'époque, les chefs de projet, en réalité, on était au quotidien en contact avec les artistes. Il y a des choses qui ont beaucoup changé depuis ces longues années. Mais oui, oui.
Bien aujourd'hui, sûr. Il y a plein d'intermédiaires, c'est ça ?
Il y a beaucoup d'intermédiaires, dont les managers, qui ont pris une certaine place.
Alors,
mais, oui.
Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as l'idée de créer Savoir-Faire ?
Alors, pas du tout.
Ah oui,
pas du tout.
Parce qu'entre-temps, il y a justement la deuxième partie de tes études. Donc, tu as commencé en 98 l'économie politique et l'Europe. Et 10 ans plus tard, en 2008, tu vas faire un tour dans une maison que je connais bien et que j'adore, le CELSA, l'école de com de Sorbonne Université, pour reprendre tes études.
Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2007, Universal a racheté V2 et qu'on m'a proposé de passer au département international chez Universal. Et je ne l'ai pas senti. J'avais envie aussi de réfléchir à d'autres pistes et d'autres projets comme l'association des marques et des artistes et à quel point les artistes aussi pouvaient être des marques eux-mêmes à travailler dans tout le respect d'une marque au sens de l'empreinte. Et du coup, je pense que j'étais pas allée au bout de mes études, j'étais pas allée au bout de ma démarche. Et donc après un certain nombre d'années de professionnel, j'ai profité un peu du package et j'ai dit je retourne sur les bancs de l'école, je passais les concours. Ils m'ont pris, j'ai adoré.
Ah oui, c'est pas n'importe quelle école, hein, le CELSA, c'est très sélectif et c'est une des meilleures écoles de marketing en France.
Et très honnêtement, je pense que j'aurais pas reçu cet enseignement de la même façon si je l'avais fait dans mon premier cycle. Le fait d'avoir bossé avant et d'être mature par rapport à une expérience professionnelle, d'être devenu aussi adulte, la réalité, c'est que dès le premier cours, j'ai entendu des choses que je pouvais mettre en phase avec ce que j'avais vécu dans les 10 dernières années. Donc, je pense que vraiment, j'ai allumé plein d'ampoules de mon plafond.
Et ça, c'est vachement intéressant. Ça nous parle forcément, Daniel.
Bien sûr.
En gros, tu as fait un master en 2 brand stratégie, donc stratégie de marque.
Ouais.
Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Toi qui déjà avais en tête d'associer les artistes et les marques et de considérer les artistes aussi comme des marques.
Oui, des marques qui ont un public, qui ont une audience, qui ont un message, un langage, une iconographie. Enfin voilà, pour moi, tout était là, quoi.
D'ailleurs, ça va te servir plus tard, puisque chez Savoir-Faire, vous travaillez beaucoup avec les marques.
Oui, on avait même un moment fait un département spécialisé qui maintenant est complètement intégré dans la boîte. Et ça nous a permis d'être vachement des interprètes, en fait, entre les artistes et les marques. Parce que souvent, des directeurs marketing arrivaient en nous disant, voilà, on veut faire un endorsement avec
endorsement.
Pardon, endorsement.
Non. Je me permets de faire préciser si je me dis, tiens, les gens vont peut-être pas comprendre.
Endorsement, c'est quand on fait, par exemple, une campagne avec un artiste et une campagne de marque où l'artiste est présent et devient un peu porte-parole de la marque. Et donc, il y a une importance clé de l'adéquation entre la marque et l'artiste. Si demain matin, on prend, pardon, je cite, Sopiquet et Geza Felstein, il y a un moment, ça colle pas. Ça pourrait en surprendre plus d'un. Non, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas les mêmes publics. Il faut forcément une adéquation entre le public de la marque et le public de l'artiste, et puis un équilibre entre les marques et les notoriétés, et que le public sente que grâce à la marque, ils ont une expérience particulière avec l'artiste qu'ils aiment. Donc, et pas qu'on leur vole ou qu'on l'achète. Donc, c'est toute une histoire de vachement de pédagogie qu'on a fait pendant des années.
T'as un bon souvenir d'association d'artistes et de marques que vous auriez initié ? C'est toujours un peu compliqué de citer un des trucs qui ressort comme ça.
Oui, là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Il y en a eu des particulières. C'est marrant, celle qui me vient en tête est certainement pas la plus pertinente, mais elle avait un sens à cette époque-là et elle est pas du tout politiquement friendly. C'est qu'on avait fait une collaboration entre une marque de vodka et l'artiste Brodinski qui était en train de vraiment prendre le lead et devenir la nouvelle génération des DJ, donc la fête, donc ouais. Les clubs et donc la vodka. Bon, les jeunes, l'alcool, tout ouais. Ça. Oui, non, c'est très ouais. Cohérent. Et surtout, l'idée, c'est qu'il avait rhabillé complètement la bouteille. Il y avait posé un univers de club avec du design, etc. Et on avait créé plein d'événements grâce à ça. Je suis sûre qu'on a fait mieux. Je ne sais pas pourquoi j'ai celui-là qui me
C'est vachement cohérent en même temps. Donc, tu as failli être perdu, avant de passer à Savoir-Faire, tu as failli être perdu pour la musique parce que le CELSA et tout l'univers de la com du CELSA t'a amené à bosser derrière dans le planning stratégique en agence, c'est-à-dire les gens qui réfléchissent, hein, c'est ça
En fait, le planning stratégie, c'est ce qu'on appelle un peu le blue sky thinking. C'est les gens qui regardent un peu le ciel et en se disant, tiens, l'air du temps, c'est ça, la tendance, c'est ça, je sens que chez les gens... Alors, il y a un petit peu d'études sociologiques, il y a un peu d'études de data, on met un peu de choses un peu plus sérieuses dedans, mais c'est un peu, L'inspiration des tendances de demain, ouais, la stratégie. En fait, ce qui m'a ramené à la musique, donc j'ai été recrutée par une de mes profs du CELSA, Déborah Marino, et qui m'a fait rejoindre son équipe. Et j'ai adoré, j'ai appris plein de choses, mais je me suis retrouvée au bout de 6 mois dans des conversations avec d'autres planeurs stratégiques qui me parlaient de pub de 86. Est-ce que tu te souviens de la pub de 86? Comme moi, je parle de la musique. Et en fait, c'est cette conversation qui m'a fait réaliser qu'il fallait vraiment que je retourne à la douche de venais, quoi.
Ouais, c'est génial, t'as ça dans le sang, dans les tripes.
Donc tu dis, ok, il faut que je revienne dans la musique parce que là, ça me parle plus. Je vais revenir à mes premiers amours, en fait.
Alors, à ce moment-là, je suis approchée par Red Bull, qui cherche une brand stratégiste par rapport à la musique, d'un côté. Et de l'autre côté, une vieille bande de copains qui est en train de monter un pari fou, qui a créé quelques mois avant et lancé le Social Club, qui a été un club un peu iconique de la musique électronique pendant quelques années à Paris. Et l'envie de monter ce projet un peu fou de tourneur, manager, etc. derrière, que des garçons et qui me disent « il manque une fille dans l'équipe et il manque une expertise marketing, est-ce que ça te dit ?» Et j'ai choisi le pari fou.
Sold Out.
Sold Out.
Le podcast de Delight.
Le podcast de Delight.
Donc voilà, donc on rentre dans la période savoir-faire, la boîte que tu diriges aujourd'hui, qui est donc née en 2009. Donc
2008 en réalité.
Donc cette boîte, elle a 15 ans en fait. Hein.
Ouais.
Ça commence donc par les clubs. Social Club ou Wanderlust un peu après.
Ouais, le Silencio d'abord.
Silencio.
Ouais.
Raconte-nous un petit peu voilà, comment tu intègres la bande et puis après, comment vous développez le management d'artistes, l'édition, etc.
Donc, je connaissais cette bande de garçons et cette association un peu étrange entre ces profils. Je les connaissais tous de relations et de liens différents. Et donc, ils me parlent du projet et avec cette idée donc, des clubs et de la programmation, c'est-à-dire d'aborder les clubs comme des salles de concert en y faisant vraiment de la programmation. Et en tirant le fil de ça, on s'est rendu compte que on faisait venir en France beaucoup d'artistes étrangers pour jouer chez nous et qu'en fait ils n'avaient pas la suite de leur histoire. C'est-à-dire qu'ils nous disaient mais si on vient, on a envie de jouer au Social Club, mais on a aussi envie de jouer à Lyon, à Lille, etc. Est-ce que vous pouvez nous aider? Donc de là a commencé le booking et puis ensuite on s'est rendu compte qu'on découvrait beaucoup d'artistes dans les clubs qui n'étaient pas représentés et qui donc ne construisaient pas leur suite. Ouais. Et donc on a commencé à faire du management et à les produire, parce que les premiers artistes de savoir-faire étaient aussi produits.
Mais juste, c'est un métier très différent, quand même, parce que quand gérer des clubs, concrètement, la petite équipe gérait les clubs, le Social Club, le Silencio.
Dans les associés, il y avait des gens qui savaient très bien faire ce métier-là.
Donc, qui étaient des gens de la nuit, clairement.
Qui étaient des gens de l'exploitation.
De l'exploitation.
Voilà, comme on dit.
Mais bien sûr.
Du CHR.
Et toi, très tôt, j'imagine, tu n'étais pas là-dedans.
Moi, j'ai vraiment été plus dans la construction des marques des clubs, c'est-à-dire et de la communication, donc l'identité du social club et avec qui on l'associe. Pour le coup, on a fait des collaborations avec des marques aussi qu'on a accueillies dans les lieux. Comment on fait rayonner notre programmation et notre discours. Et il y avait Manu Baron, qui est mon actuel associé, qui est pour moi le meilleur DA. Voilà, c'est pas pour rien que j'aime travailler avec lui.
Directeur
artistique, pardon, et qui était en charge de la programmation et qui a fait de ce lieu ce qu'il...
Manu Baron, qui a programmé...
Le Festival de Bourges, qui faisait partie de l'équipe de programmation, la Condition Publique, aussi à Roubaix.
Une très grande expérience de
qui a été directeur artistique de la FNAC aussi, enfin voilà.
Et donc la formule magique au départ de l'association, c'est des gens qui gèrent l'exploitation des lieux, des clubs, c'est toi sur la marque, et on parle de marque incroyable, hein, Social Club, Silencio, Wanderlust, et de la programmation au cordeau, et magnifique.
Avec Manu. Et en fait, le truc, c'est que... Mais c'est venu vraiment très, très vite, le lien avec les artistes derrière, c'est-à-dire le booking s'est mis en place très, très naturellement. Le booking, c'est ce qu'on appelle donc en gros le métier d'agent de spectacle. Ouais. C'est-à-dire que quand on faisait venir, on a eu des belles histoires. Au Social Club, par exemple, Manu a programmé au tout début un artiste qui s'appelle Skrillex. Et il le programmait sur les jeudis soirs où c'était gratuit pour les filles, je crois qu'on faisait ça à l'époque, avec le soir qu'on essayait de remplir avec plein d'avantages, et on n'avait jamais personne, et on le programme une fois, deux fois, trois fois. Et puis un autre jeudi où l'entrée était gratuite, ou etc., et où Skrillex était programmé, en fait, on reçoit un appel de la police, qui était d'ailleurs juste à côté du club, hein, en rue de Nancy, et qui nous dit, là, il y a un problème, il y a une queue énorme sur trois pâtés de maison, et en fait, on n'avait pas du tout réalisé que sa carrière avait vraiment commencé, et donc on s'est retrouvé avec une queue sur trois pâtés de maison, sur cet artiste, sur lequel on avait vraiment un échec à chaque fois, et on insistait pour essayer de construire son profil. Et donc, ouais, donc cette soirée a été merveilleuse, on a dû malheureusement refuser des gens, et à partir de là, il nous a dit, en fait, à partir de maintenant, quand je viens, je voudrais que vous deveniez mon agent en France, que vous me représentiez en France, et donc que ce soit vous qui fassiez donc, le booking, c'est-à-dire me trouver des dates dans les festivals en France, dans d'autres clubs en France, que vous soyez producteur de ce qui est allé jusqu'à des zéniths derrière.
Et à ce moment-là, donc, vous avez l'idée de produire sur label Bromance des artistes que vous découvrez.
Alors, Bromance n'existait pas encore. On a commencé par produire, parce que personne n'était au rendez-vous de la musique électronique au démarrage, deux artistes qui s'appelaient Yuxek, qui s'appellent toujours Yuxek, et Birdy Nam Nam. Et en fait, ce sont les deux premiers artistes qui ont été produits par Savoir-Faire.
Si on en revient au métier du management derrière, à quel moment tu te dis il y a besoin d'une activité pour conseiller les artistes et gérer leur carrière?
Le truc, c'est que Manu avait déjà, en nous rejoignant, une première expérience de management. Il manageait à l'époque un groupe belge qui s'appelait Das Pop. Et donc, voilà. Et donc, comme on faisait du marketing, qu'on avait commencé à produire, que Yuxek, on l'avait mis en licence chez Universal, Birdy Nam Nam chez Sony, que du coup, ce rôle de producteur n'avait pas... avait de moins en moins de sens, etc. Et puis qu'on avait plein de nouveaux artistes qu'on a rencontrés, tels que Brodinski, Geza Falstein, et toute cette scène électronique, les clubs Cheval derrière et tout. En fait, on s'est naturellement mis à les représenter en tant que manager d'artistes. Donc, à travailler avec eux sur l'artistique, choisir les partenaires et commencer à raconter leur histoire. Mais c'est beaucoup parce qu'en fait, il y avait personne, en tout cas sur ce créneau de la musique électronique qui était notre premier créneau, il n'y avait personne. Tu parlais de Bromance, mais Bromance, on l'a créé pas comme un label au démarrage, mais vraiment comme un outil du management, parce que personne ne voulait signer nos artistes.
Donc en fait, vous créez une structure de management parce qu'il y avait personne qui s'en occupait, et donc vous prenez la place.
Exactement.
C'est très opportuniste, parce que la musique électro à l'époque n'était pas opportuniste dans le bon sens du terme.
Bien sûr.
La musique électronique à l'époque n'avait pas l'aura qu'elle a aujourd'hui, en fait. C'était encore un truc un peu sur le côté, non?
En fait, c'est amusant, c'est qu'en réalité, elle était très forte, mais elle était très forte dans les clubs. À cette époque-là, c'est ce qui lidait vraiment les choses. Sur les programmations de festivals, ça commençait à prendre une place très importante. C'est juste l'industrie du phono qui n'était pas du disque qui n'était pas au rendez-vous.
Mais toi, c'était ta cam, si j'ose dire. Est-ce que c'était ce que tu écoutais?
Ah, complètement.
Ouais, t'as toujours écouté. T'as un petit sourire quand tu dis ça. T'as un petit sourire coquin.
C'est toute ma jeunesse. Les rêves, les clubs.
Ah oui. Toi, tu venais pas du rock ou de la variété?
Du rock ou du rap, j'en ai toujours écouté. Mais
ma musique de cœur,
c'est la musique électronique. Ouais.
T'arriverais à manager des artistes qui sont pas des artistes électro?
Je le fais.
Tu le fais déjà aujourd'hui?
Ouais.
Toi-même?
Oui. Je travaille avec Adrien Gallo, qui pour le coup fait vraiment de la chanson et du rock. Mais moi j'écoute j'aime de tout. C'est juste que ma construction personnelle musicale est passée par la musique électronique. Ouais.
Alors à un moment, vous vous dites l'activité est devenue trop grosse et vous décidez de séparer les clubs et les events de l'activité de management.
Oui, alors. Et alors, le truc, c'est que donc, on crée le management, on crée Bromance, on crée les éditions assez vite aussi.
Les éditions, c'est les structures qui permettent de récupérer les droits d'auteur, hein, c'est ça?
Alors, elles ne font pas que les récupérer. Ouais.
Elles les valorisent.
Elles les protègent d'abord, et ensuite, l'idée, quand on signe un artiste en édition, c'est qu'on l'aide à développer son catalogue, on l'aide à écrire, on l'accompagne dans tout ce premier travail de création avant qu'il y ait un label qui rentre dans l'histoire. Et ensuite, une fois que la musique est sortie, on le valorise en le mettant sur les films, sur les pubs, en leur donnant d'autres opportunités pour écrire pour d'autres artistes, etc.
Donc vous créez les éditions.
Ouais.
Et puis
et à un moment donné, non mais à un moment donné, tout grossit effectivement un peu vite pour nous et notre petite expérience de dirigeant de boîte. Et on était un certain nombre d'associés. Et puis à un moment donné, il commence à y avoir des conflits, c'est-à-dire les décisions qui sont bonnes à prendre pour les clubs ou les décisions qui sont bonnes à prendre pour le booking ne sont plus du tout les mêmes que celles dont ont besoin le management, les éditions, ouais, etc.
Les intérêts peuvent diverger.
Exactement.
Sur une carrière
d'artiste. Et puis ça devenait trop gros. On n'arrivait pas du tout à garder une véritable ligne éditoriale, une véritable cohérence, ni dans le management de la boîte, ni dans les décisions artistiques. Donc, on s'est un peu assis tous autour de la table. Assez naturellement, les uns et les autres avaient pris des responsabilités plus importantes sur un des secteurs ou d'autres. Et puis, en fait, on a découpé la boîte en trois.
Toi, tu as gardé la partie
avec
management.
Avec Manu Baron, on a gardé le management, le label et les éditions.
Et vous continuez à avoir des liens privilégiés quand même avec les clubs ou c'est vraiment aujourd'hui une boîte complètement séparée ?
Alors, c'est une boîte complètement séparée. C'est-à-dire que vraiment en 2014, avec le booking aussi, on a vraiment coupé tous les liens. Il n'y avait plus aucun lien capitalistique ou financier, etc. Il y avait encore des projets en commun, mais c'était les projets qui étaient en commun, mais c'était vraiment trois boîtes différentes. Et oui, forcément, nos artistes sont allés jouer au Wanderlust, sont allés jouer au Social Club, sont allés... Alors, qui ensuite s'est arrêté parce qu'on n'en faisait plus la programmation. Et au Silencio. Enfin, il n'y a pas de bisbise, c'est juste vraiment devenu trois métiers différents. Après, le temps est passé, on s'est un peu tous éloignés. Mais...
Maintenant, j'aimerais qu'on zoome un peu sur savoir-faire. Explique-nous un peu comment tu gères tes artistes. Tu as, je crois, quelques artistes en direct. Et puis, tu supervises une équipe de jeunes managers.
Aujourd'hui, savoir-faire, c'est le management, les éditions et le label. Donc, on a tué Bromance et on a créé un nouveau label avec Billy qui s'appelle Animal 63. Donc les artistes ne sont pas forcément signés sur les trois volets. Et sur la partie label, on a vraiment l'aide des équipes de Believe. Mais on a quelques personnes qui travaillent quand même sur. Depuis Bureau de Savoir-Faire. Savoir-Faire, on est 16 ou 17 personnes, j'oublie à chaque fois. Et on a une équipe qui travaille sur les éditions et une grosse équipe sur le management. Et donc, le management, c'est dirigé. Moi, je supervise toute la boîte. Mais j'ai effectivement quelques artistes en direct, mais mon vrai métier est comme celui de Manu, qui est un vrai manager à plein temps et le directeur artistique du label. On forme, on accompagne. Alors maintenant, il y en a pour certains qui n'ont plus besoin d'autant d'aide, etc., mais des jeunes managers. Donc on a quatre jeunes managers. J'adore dire jeunes parce qu'il y en a un qui a, et même deux qui sont aujourd'hui très expérimentés, etc. Mais ils sont plus jeunes que nous, donc ils resteront jeunes pour toujours. Voilà, et qui ont leur propre roster. Donc quand ils arrivent, on leur donne généralement un premier artiste ou un ou deux. On les accompagne ensuite à créer leur propre roster et leur propre signature.
Donc toi, par exemple, aujourd'hui, tu te retrouves à manager en direct certains artistes.
Et à co-manager d'autres.
Et à co-manager d'autres en manageant leur manager.
Exactement. Mais je passe quand même du temps
c'est
avec les artistes.
C'est classe d'être manager de manager.
C'est super classe. C'est possiblement mon métier préféré aujourd'hui.
Et est-ce que... Ah ouais, c'est intéressant ça. Tu aimes bien... Tiens, on peut s'arrêter là-dessus deux secondes ?
Bien sûr.
Pourquoi c'est ton métier préféré aujourd'hui ?
En fait, pour deux raisons. D'abord parce que j'aime bien transmettre.
C'est un truc important pour toi.
Très important. Ouais. Très, très important. Ensuite, il y a une histoire d'âge aussi. C'est-à-dire que sur certains artistes, je ne suis plus pertinente comme je l'étais avant.
C'est ce que nous disait Doudou de Radical.
Mais c'est normal. Hein.
Et sur le rock, il y a un moment où on ne sent plus autant les choses qu'on les sentait.
Mais c'est normal parce qu'aujourd'hui, la nouvelle génération d'artistes d'aujourd'hui et de demain, elle s'adresse avant tout à des gens qui ont plus entre 15 et 30 ans. Donc quand on ne fait plus partie de cette génération-là, il y a des choses à côté desquelles on passe et on n'a plus les mêmes oreilles. On est capable artistiquement d'apprécier ou pas, mais on n'a pas forcément les mêmes feelings. Et puis surtout, quand on fait du management, qui est pour moi aussi beaucoup de marketing, on n'est plus la personne à qui on s'adresse. Donc d'avoir pour moi à mes côtés des jeunes qui sont dans les clubs le soir, qui sont sur les festivals, qui ont des copains de leur génération qui découvrent des artistes, c'est un regard et un enseignement à côté duquel je ne veux pas passer.
Sold Out. Sold Out, le podcast de Delight.
Donc le modèle de savoir-faire, c'est un modèle où tu t'appuies sur des équipes qui managent aussi d'autres artistes, que tu le fais en direct et que tout ça marche super bien.
Et alors oui, et il y a une autre raison. qui est très très chouette et qui me donne du plaisir à être derrière, c'est qu'en fait, les managers qui sont au day-to-day avec les artistes vivent des choses en ayant vraiment la tête dans le guidon, en étant vraiment dedans. Et là, le truc, c'est que du coup, quand ils m'appellent, je peux aussi apporter un recul. Et je pense que cet échange-là, il nourrit plutôt bien tout le monde.
Alors, explique-nous un petit peu ta façon de faire du management d'artiste, ta définition du management d'artiste. C'est quoi le management d'artiste à la sauce savoir-faire?
Bon, alors, déjà, chaque manager a sa personnalité. Et donc, voilà. Mais je pense que la première chose, c'est pourquoi on accepte de manager un artiste. En fait, pour moi, il y a plusieurs critères quand on nous présente un artiste et qui déclenche l'envie. La première chose, ben, il faut qu'on ait un coup de cœur, déjà. Il faut qu'on ait une conviction qu'en face de nous, il y a un talent, qu'il soit brut ou déjà abouti. Il faut qu'on ait cette première conviction et cette première chose. La deuxième raison, parce qu'on ne peut pas manager tous les artistes qu'on aime, et surtout, on n'est pas pertinent sur les artistes qu'on aime, il faut que quand on rencontre un artiste et son projet, on ait une vision. Ce que nous, on s'amuse à dire entre nous, la vista. C'est-à-dire, en gros, je rencontre cet artiste, il est à ce point A, je pense qu'il devrait arriver à ce point B. Voilà la vision pour moi de où est-ce que je le vois dans 5 ans et le chemin qu'on devrait prendre. Et on partage ça avec l'artiste. Et il faut que l'artiste nous dise « Ok, banco ». Parce qu'en réalité, il y a plein de points B. Il y a plein de façons d'y arriver. Il faut qu'à un moment donné, on ait aussi un accord sur le chemin qu'on veut prendre. Et la troisième raison, qui est très différente des éditions et de la partie label, c'est que le management, c'est une relation assez intime. Donc en fait, il faut qu'on ait envie de passer du temps avec la personne. Donc même si on aime son travail et qu'on a la vista commune, s'il n'y a pas une première connexion humaine qui amènera en temps et en heure, à de la confiance et à de l'échange de qualité, il faut qu'on ait envie de passer du temps avec cette personne.
Question un peu naïve. On a l'impression, quand on regarde de très loin le métier de manager d'artiste, qu'il y a deux types, en fait. Il y a les anciens et les modernes, un peu. Il y a les personnes qui managent un seul artiste, soit sont vraiment très, très proches d'un seul artiste, soit il y a des boîtes d'artistes services plus structurées. Et est-ce que c'est une bonne caricature ou une fausse caricature? Parce que t'as l'air de faire la moue et j'ai l'impression que t'es pas du tout d'accord avec moi.
Parce que je sais pas si c'est ancien ou nouveau. Je pense que ancien ou nouveau est plus dans la vision du métier. On parle de l'impresario. L'impresario, il était quasiment attaché de presse. Il était assistant personnel de l'artiste. Donc ça, c'est vraiment autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des managers qui ne managent qu'un artiste et qui pour autant ne sont pas leur impresario mais vraiment leur manager et vraiment impliqués dans la vision stratégique du développement de l'artiste. Donc c'est pas tellement le fait que est-ce qu'on est dédié à un artiste ou est-ce qu'on est une structure. Moi j'aime bien l'aspect structure, d'abord parce que j'aime le travail en équipe et l'échange. Je pense que c'est difficile d'avoir raison tout seul. Et l'échange, il ne peut pas se passer qu'avec l'artiste. Donc pour moi, aujourd'hui, les managers chez nous, on se parle beaucoup de nos projets respectifs. On échange tous les lundis. Ils ont une réunion où Manu et moi, nous sommes interdits d'aller. Une réunion entre eux où ils discutent de leurs projets. Et je pense vous me regardez bizarrement, c'est parce qu'on prend trop de place.
Je trouve ça génial, moi.
C'est génial.
Et ils se sont organisés ça sans nous.
Moi, je vais faire ça, comme ça, ça gagnera du temps.
Et du coup, ils échangent sur leurs projets. On a aussi un truc un petit peu particulier chez nous, c'est que donc il y a 4 managers, mais il y a aussi une responsable du live. Mais elle n'est pas booker, elle ne travaille pas dans une agence de spectacle.
Elle travaille sur
toutes les problématiques du live aux côtés des managements. Donc elle confirme, elle accompagne les créations de spectacles auprès des tourneurs, elle accompagne les validations de dates auprès des tourneurs, elle accompagne les artistes dans leur intermittence et leur cachet, toute cette partie-là. Parce que c'est très chronophage. Et moi, je voulais que les managers aient vraiment un rôle très stratégique, artistique et marketing dans l'accompagnement de leurs artistes. Et de la même façon, il y a une équipe juridique qui accompagne les managers pour que toutes les problématiques juridiques soient accompagnées et suivies par des gens dont c'est le métier aussi.
Et ben je vais reformuler donc ma question, parce que tu as tout à fait raison, la grille de lecture que tu donnes est beaucoup plus fine. Mais ce que je veux dire, c'est quand on est structuré comme vous l'êtes et comme tu viens de le décrire, est-ce qu'on a aussi un rôle d'assistant quelque part personnel ou un rôle plus intime avec l'artiste quand il doute ou quand il est mal ou quand que sais-je ou,
bon, alors moi, je suis un peu une caricature chez Savoir-Faire, c'est-à-dire que moi, je considère que nous sommes les associés des artistes. Donc, pour moi...
C'est intéressant, parce que ouais. c'est peut-être la nouvelle définition du management.
Je ne sais pas si c'est la nouvelle définition, en tout cas, c'est la mienne, c'est-à-dire que je ne travaille pas pour un artiste ne travaille pas pour moi, on travaille ensemble. Okay. Donc, on s'associe sur sa carrière professionnel. On va décider, je ne prends pas de décision sans lui, mais j'aimerais qu'il ne prenne pas de décision sans moi non plus sur le choix de quel est le tourneur, quel est le bon label, et on partage là-dessus. Après, sur la route, c'est impossible. Alors si, ça arrive, mais moi je dis toujours, on est un partenaire professionnel, donc si tu as besoin d'un assistant personnel pour aller louer ton appart, ton truc, etc., et aller chercher ton pressing, c'est pas nous. Voilà, c'est pas nous. Et puis, je le dis aussi beaucoup, même en portant la parole de mes jeunes managers, parce qu'eux ont plus de difficultés à dire. C'est plus facile de le dire à mon âge avec mon expérience. Ou bien sûr, il n'y a aucun artiste qui va m'appeler à 22h pour me parler de ses chaussures. Un jeune manager a plus de mal à dire non. Mais maintenant, de dire que sur la route de cette relation de professionnel intime se crée pas des amitiés. Évidemment, quand un artiste doute dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle, c'est souvent très lié. Donc, bien sûr qu'il y a de l'échange. Mais on n'est pas assistant personnel dans ce sens-là, ouais.
D'ailleurs, tu te bats, je crois, pour le statut de manager. Aujourd'hui, il y a un petit peu des... Tu peux nous expliquer, il y a un petit peu des...
En fait,
flou, il y a le statut d'agent artistique.
Ouais.
Comme dans 10%.
Comme dans 10%, exactement. D'ailleurs, on ne prend pas 10%, on prend un peu plus.
Vous prenez 15%.
Ouais, exactement. Non, mais peut-être qu'il faudrait qu'on fasse une série, d'ailleurs. 15%.
15%.
Et non, en fait, le métier de management a énormément changé. Ce que je veux dire, c'est que pour donner suite au sujet de l'impresario, dont souvent le talent était d'avoir des relations professionnelles et d'être un bon attaché de presse et d'obtenir la bonne performance télé, etc. Aujourd'hui, le manager, il a beaucoup, beaucoup de responsabilités. Il a effectivement la première, qui est pour moi celle essentielle, de s'asseoir avec l'artiste et de définir un projet artistique avec lui et d'aider l'artiste à le réaliser. Et il a aussi... la responsabilité, du coup, d'aligner les bons partenaires derrière. Donc, ça implique aussi bien des
sûr,
relations.
Bien sûr.
Il accompagne aussi l'artiste et son avocat dans les négociations. Donc, en fait, il y a une compétence juridique aujourd'hui du business et qui change chaque année. Donc, chaque année, on doit être au jus de ce qui se passe en France et à l'international, d'ailleurs, dans le métier, qui change énormément. Aujourd'hui, on a un rôle par rapport au label. Quand ils existent et quand nos artistes ne sont pas en distrib, on a un rôle très, très marketing et très, très opérationnel aux côtés de nos artistes aussi, où du coup, on doit donc savoir ce que c'est que le marketing. Et ensuite, on a un rôle financier qui est que c'est nous qui vérifions les décomptes que nos artistes reçoivent de leurs éditeurs, de leurs tourneurs, de leurs labels, où donc là, on doit avoir une compétence presque comptable et financière de ce qui leur arrive. Et ensuite, on les aide à trouver le bon comptable. Le bon fiscaliste quand il le faut. Mais un comptable, il ne sait pas lire un décompte de royauté, il ne sait pas voir si la synchro, elle est bien dans le décompte ou pas.
Mais tout ça, tu es en train de dire qu'il y a toutes ces compétences, toutes ces expertises, j'irais même dire, mais sans statut aujourd'hui, Claire.
En fait, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est aujourd'hui le manager, il doit savoir faire tous les métiers de la musique et les comprendre. Et c'est pour ça que j'insiste souvent auprès des jeunes que je croise dans les différents masters, que s'ils veulent devenir manager, je leur conseille d'aller faire un tour dans le booking, d'aller faire un tour dans un label, d'aller faire un tour chez un éditeur et d'avoir vraiment un regard sur l'ensemble des métiers, parce que c'est ce qui sera exigé. Et pour moi, on met 10 ans à devenir un bon manager. Et donc, il s'avère que vu qu'on fait l'ensemble de ces métiers-là et qu'on doit avoir l'ensemble de ces compétences, c'est donc très, très, très différent de l'agent de comédien qui souvent est un avocat et qui a donc pour principal métier, alors bien sûr, il y en a qui en font plus et qui conseillent et qui trouvent des opportunités, mais dont le principal métier est de négocier des contrats. Donc, un agent du cinéma peut avoir 200 clients. Ce que je dis souvent en rigolant, c'est que le manager de la musique qui a 200 clients, en fait, meurt. Tout simplement, c'est impossible. C'est-à-dire qu'un manager, au-delà de 5 clients
en direct,
c'est impossible. Il ne peut pas donner un bon service, il ne peut pas être là. Donc aujourd'hui, le métier de manager et toutes les contraintes juridiques qui vont avec, de reconnaissance du métier, de possibilité d'avoir des aides, comme quand il y a eu la crise du Covid, etc., on n'est pas reconnu au bon endroit. Donc aujourd'hui, on est associé à un statut qui n'a aucun sens pour notre métier. Donc oui, je pense qu'il faut qu'un statut et un code APE du management existent. Aujourd'hui, en France comme à l'international, le manager a une nouvelle place dans l'industrie qui est donnée par l'artiste, mais qui est aussi donnée par l'industrie qui s'est désengagée de beaucoup de responsabilités et de métiers aussi. Parce que ce n'est pas toujours un choix quand on se retrouve à devoir faire le travail du label à sa place. Et on aimerait bien avoir plus d'échanges et de répondants, sans attaque personnelle. Et bien sûr, je ne peux pas généraliser ça à tout le monde parce que nous avons aussi des expériences heureuses. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire correctement ce métier-là sans savoir de quoi on parle. Et je pense que la formation, un cadre juridique, une reconnaissance, c'est essentiel, ouais.
Donc, on va peut-être terminer sur ça. On invite toutes les parties prenantes et les législateurs à se mettre d'accord sur un nouveau cadre,
on espère, en
2024, 2025.
C'est essentiel, 2024. C'est essentiel. Il faut qu'on se rassemble mieux. Il faut qu'on définisse bien nos objectifs, mais qu'on fasse du mieux. Métier que j'adore de manager de musique, un vrai métier.
Ça, c'est la ligne d'horizon pour le métier, en général.
Ouais.
Et je sais que c'est un de tes combats, notamment parce que t'adores la transmission et t'aimerais bien aider à faire grandir encore ce métier. Et la ligne d'horizon pour savoir-faire, c'est quoi ? Est-ce qu'à un moment, ce serait complètement dingue de se dire que vous allez opérer une salle de spectacle ? Est-ce que vous allez être plus présent ? Moi, Sold Out, c'est un podcast qui parle beaucoup de live, habituellement. Est-ce que vos rapports avec le live vont être ceux que tu as décrits un peu plus tôt dans l'épisode, avec une personne dédiée à ça ? Ou est-ce qu'on pourrait réimaginer d'aller plus vers les lieux ? Ou est-ce que...
Je crois pas. Je pense que pour moi, les lieux, c'est vraiment un métier particulier. J'ai adoré le faire. Hein. J'ai travaillé 5 ans à la gestion de lieux et des équipes.
Mais c'était des clubs, c'était pas des salles de spectacle.
Mais nous, nos clubs, c'était des salles de spectacle.
Ah, je comprends.
Voilà, on accueillait des lives, on faisait une programmation. Ouais. Vraiment, ça se remplissait en lien avec la programmation et pas parce que
C'était un business de salle de spectacle.
C'était un business de salle de spectacle complètement. Et donc voilà, non, je crois pas qu'on ira par là. Et souvent, on me pose la question sur savoir-faire. Pour moi, on a aujourd'hui un métier très artistique et très et de conseil et d'accompagnement. D'ailleurs, je trouve qu'on a même ce métier-là quand on fait des éditions et quand on fait du label. Je pense que pour nous, le futur, c'est nos prochaines signatures et puis le succès qu'on apportera aux signatures qu'on a déjà. J'ai pas envie qu'on devienne une énorme boîte. J'ai envie que mes managers réussissent à breaker l'ensemble de leurs artistes et qu'on continue à découvrir des nouvelles scènes et qu'on les accompagne.
J'ai l'impression, par ailleurs, que vous êtes super agile. J'ai l'impression que parfois, tu as des managers, des jeunes managers, des gens qui sont chez toi depuis 7-8 ans, qui envisagent de partir créer leur propre boîte. Et qu'en fait, j'ai l'impression que tu adores ça.
Ben, en fait, après, chacun son histoire. C'est-à-dire qu'il y a des managers chez nous qui, je l'espère, me reprendront la boîte. J'adorerais, ce serait le plus beau des scénarios. Et donc voilà, mais après, il y a aussi effectivement des jeunes managers qui sont passés chez nous, qui étaient aussi entrepreneurs avant de nous rejoindre et indépendants, et pour qui ça a été étrange de rejoindre une boîte. Et je pense que c'est parce que c'était savoir-faire qu'ils l'ont fait, sinon ils auraient continué tout seuls. Avec qui on a partagé 5-6 ans. Et là, récemment, à l'automne, effectivement, il y a 2 jeunes femmes en plus qui se lancent juste cet automne, qui créent leur propre structure qui s'appelle Canine, en partant avec certains artistes de savoir-faire, mais qu'elles avaient accompagnés. Donc, elles sont totalement légitimes à partir avec. Et puis, qui vont signer leur propre projet. Et on va garder certains projets en commun aussi. Et puis je reste à leur côté et elles ont intérêt à tout casser.
Exactement. Et c'est une sacrée preuve de maturité de faire des cousins, des cousines comme ça ou des sœurs.
Mais en fait, il n'y a pas assez de managers en France.
Et justement, la dernière question que je te laisse poser, Daniel.
mais je crois que tu as un petit peu répondu précédemment. C'est quoi le conseil que tu donnerais à un jeune qui veut se lancer dans le métier de manager d'artiste ?
J'ai un petit peu répondu avant. Je pense que c'est le métier sur lequel il faut le plus de maturité. Je pense qu'il faut aller découvrir les autres métiers parce que c'est difficile de conseiller un artiste de choisir tel ou tel partenaire ou d'agir comme ça ou telle stratégie de live si on n'est jamais passé par une boîte de live. Enfin, je trouve ça un peu absurde. Donc, je pense qu'il faut aller prendre de l'expérience un peu dans tous les métiers de l'industrie pour les maîtriser. Et puis, Et puis après, on peut se lancer tout seul.
On peut se lancer tout seul.
Oui.
Faut pas avoir peur.
Non.
Faut jamais avoir peur.
Non, et puis bon, après, moi, je suis pour l'entrepreneuriat, donc...
Merci beaucoup, Alexandra.
De rien.
Merci d'être au micro de Soldout. Et merci beaucoup, Daniel.
Merci, Alexandra.
Merci à vous deux.
Merci, Marc.
À bientôt, tout le monde.
À bientôt.
Ciao.